Bonsoir, c'est Jeudi Noir, 89.4 sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et ce soir, après avoir écouté ce morceau de Betty Davis, c'est ça, nous allons, Jean-Mathias va nous parler d'un bouquin d'une certaine Chantal Mouffe, j'osais arrêter de rire, qui s'intitule Le paradoxe démocratique. Voilà, donc c'est de la philosophie politique branchouille. Mais ça a l'air, je pense qu'on va peut-être pouvoir rigoler un petit peu. Donc, alors moi je l'ai pas lu le bouquin, donc je vais passer la soirée à dire des bêtises. Et essayer de déconcentrer Jean-Mathias, qui lui est très très sérieux, il a mis son nœud papillon et il s'apprête à nous parler sérieusement du bouquin du paradoxe démocratique.
Alors, je complète la présentation qui était un petit peu dilettante. Donc c'est publié aux éditions des Beaux-Arts de Paris, donc très chic, en 2016. Donc c'est un livre qui vient de sortir. C'est un recueil d'articles, ce livre-là de Chantal Mouffe, des articles qu'elle a écrits en gros entre 95 et 2000, pour situer. Donc il y a un petit contexte. Alors d'abord, peut-être dire deux mots de Chantal Mouffe, qui il s'agit. Alors c'est une philosophe, très philosophante d'ailleurs, voilà, de mon point de vue, qui enseigne actuellement dans une université londonienne. Qui a publié un livre alors dans les années 90 qui s'appelle Hégémonie et stratégie socialiste avec Ernesto Laclau qui était son compagnon qui est mort aujourd'hui. Donc c'est un livre des années 90 qui a été assez remarqué dans le milieu un peu assez intello, hein, faut quand même le dire, du côté de ce qu'on appelle les courants un peu post-marxistes, on va dire, donc des gens qui essayent finalement d'essayer d'utiliser des outils hérités de la pensée marxiste, les questions de lutte de classe, d'idéologie, d'hégémonie, comme on dit parfois. Alors l'hégémonie, c'est l'idée que finalement une vision du monde, la vision du monde qui est admise par tout un chacun en fait, a souvent un rôle de dissimulation finalement des antagonismes qu'il y a entre les différentes classes sociales ou entre les et sert essentiellement à masquer la domination.
Ça vient pas de Gramsci, l'hégémonie
culturelle qui vient d'un philosophe et militant communiste italien qui s'appelle Gramsci. Donc elle essaie d'utiliser ces outils-là en laissant un peu de côté, si vous voulez, tout ce qui était un peu le marxisme révolutionnaire ouvriériste du 19e. Donc l'idée, c'est en fait d'essayer de voir ce qu'on peut faire de ces outils marxistes-là dans le cadre des démocraties modernes. Donc alors en essayant de voir où ça coince, hein, finalement les démocraties modernes, alors représentatives, des démocraties de masse, etc. L'idée, c'est d'essayer, voilà, d'accepter en partie au moins ce cadre-là, pas au niveau institutionnel, pas au niveau des régimes ou des partis tels qu'ils existent sous leur forme actuelle, mais dans ce cadre-là, d'essayer de voir ce que pourrait être l'idée d'une espèce de politique de gauche démocratique radicale, on va dire. Alors bon, en soi c'est pas infamant. Après bon, c'est un cadre qui est très intellectualisant, je dirais. C'est quelqu'un, Chantal Mouffe, qui a aussi travaillé au Collège international de philosophie à Paris, qui est une espèce de petite niche, très intellectualisante et assez ésotérique sur ses productions. Bon, dans son cas, elle, on peut pas l'accuser uniquement de ça parce que c'est quelqu'un aussi qui a le souci de réfléchir en étant un peu en phase avec les mouvements sociaux et puis avec des problématiques militantes réelles. Alors, son compagnon, c'était plutôt sur les mouvements de gauche radicale sud-américains. Et elle, plus récemment, en fait, elle a été, donc Chantal Mouffe, elle a été sollicitée pour conseiller notamment le mouvement Podemos en Espagne. Donc ça vous permet de situer un petit peu son champ d'action. Alors c'est pas la seule évidemment à avoir été sollicitée, mais elle est dans cette tradition là si vous voulez, donc une espèce de gauche radicale démocratique, on va dire, non révolutionnaire, hein, pour situer les choses, mais qui essaye au moins dans le domaine des idées de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière des régimes démocratiques tels qu'ils existent aujourd'hui. Récemment, par exemple, ça a aussi été avancé comme une des références, alors dans les médias un peu branchés, on va dire, hein, voilà, ou très un peu parisiens, comme Libé, etc. Elle a été présentée souvent comme une des références intellectuelles du mouvement Nuit Debout également, parce que c'est quelqu'un qui insiste justement sur l'idée de démocratie radicale de base, etc. Donc entre autres, hein, je détaillerai un petit peu après, mais c'est un peu ça le contexte. Donc si vous voulez de dans le quelle elle évolue. Donc disons la gauche radicale intello. Voilà, la gauche radicale intello et universitaire, pour dire les choses, avec un rôle de conseiller parfois sur des partis ou des mouvements sociaux un peu concrets. Les articles dont elle parle là dans le Paradoxe démocratique, alors tout est pas traduit en français, hein, de sa part, mais ces articles là sont des articles qui ont été rédigés donc entre 95 et 2000. Alors c'est un contexte aussi assez particulier. En fait, ce qu'elle a en vue à ce moment-là, elle, c'est en fait la droitisation finalement de tous les partis de gouvernement de la gauche européenne. Donc notamment en Angleterre avec le New Labour de Tony Blair, mais aussi en Allemagne, Schröder, voilà. Ouais. Donc ce tournant-là, qui lui-même suit en fait un virage déjà amorcé aux États-Unis sous l'ère Clinton-Marie, Bill. Donc, Ce qu'on oublie un peu parfois aussi, c'est effectivement de voir à quel point, en fait, les mouvements politiques européens, dans les grandes lignes, après, il y a évidemment des différences qui tiennent à chaque pays, etc. Mais comment les évolutions des partis de gouvernement européens suivent de manière quasiment mécanique et pavlovienne ce qui vient des États-Unis, en fait, quoi. Et ça a été vrai pour la vague néolibérale dans les années 80. C'est vrai aussi pour, effectivement, cette politique dite de troisième voie, comme on a pu la présenter, en Europe, que ce soit en Grande-Bretagne, donc avec Blair, ou en Allemagne avec Schröder, et puis en France avec Hollande, en fait. C'est exactement le
amusant même, d'appeler troisième voie à un simple et pur décalque des programmes économiques de la droite.
Bon, ça, c'est... Voilà. Alors, mais ce qui caractérise cette droitisation-là, c'est qu'effectivement, c'est un décalque des plans de droite, mais qui s'assume pas. C'est-à-dire qu'on est censé, comme d'habitude, dépasser le clivage gauche-droite, voilà, la vieille gauche historique, conservatrice, accrochée à l'État-providence, à la Sécu, etc. Et en même temps, on n'est pas de droite, parce qu'en fait, on est progressiste sur les questions sociétales, comme on dit parfois, donc voilà, sur les questions de soucis des minorités, le droit des minorités, la liberté d'expression, etc. Et effectivement, ce mixte-là, qui se présente comme une espèce d'avancée, de progrès par rapport aux revendications de gauche classique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu pas mal de succès, notamment autour de ces années-là, la fin des années 90, 2000. Alors, la question, c'est un peu les limites un peu de ce contexte-là, c'est que c'est une hypothèse qu'on peut formuler, c'est que c'est peut-être en train de changer actuellement. C'est-à-dire que justement, cette espèce de néolibéralisme de gauche, ou dit de gauche, on va dire, est en train un peu de voler en éclats. Clinton, femme, vient de se prendre une claque récemment. En Italie, ça marche plus. Blair s'est fait balayer.
Hollande ne se représente pas.
Merkel, est au pouvoir depuis 10 ans après Schröder.
Ça bouge pas.
Le SPD allemand
est toujours en miettes.
Et en miettes et complètement menotté aux conservateurs. Donc peut-être qu'effectivement, ce contexte-là a changé, c'est à peu près clair. Bon, il n'empêche que l'intérêt, il me semble, c'est que du coup, alors il y a ce contexte de publication des articles où en fait, finalement, sa cible, c'est ça. Donc viser, en fait, c'est tout ce discours, effectivement, dit de la troisième voie, donc une espèce de triomphe d'une espèce de centre-gauche, soi-disant, donc qui serait favorable à l'économie de marché, qui serait favorable aux libertés individuelles, qui serait favorable aux droits des minorités, mais qui en fait évacue complètement la question sociale et puis toute forme de lutte de classe, on va dire, ou de revendication de classe. Dans ces discours.
Ce qui souvent retombe sur la gueule des dites minorités qui sont censées avoir plus de droits.
Oui, c'est
dit en passant.
Il peut y avoir des dommages collatéraux de cette belle théorie. Sa cible politique, c'est ça, je dirais. Alors. C'est pas la partie la moins intéressante, parce que bon, déjà, historiquement, ça représentait quelque chose. C'est important d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre le succès aussi que ça a pu rencontrer, parce que l'air de rien, il y a eu effectivement un soutien au moins partiel des populations autour de ça. Donc ça, c'est la partie intéressante. Alors après, il y a une partie qui est aussi intéressante, mais qui est peut-être un peu moins convaincante de sa part, c'est qu'en fait, son hypothèse, c'est d'essayer de montrer qu'en fait, ces partis-là, en fait, ils ont pu accéder au pouvoir parce que finalement ils ont bénéficié de tout un travail intellectuel derrière qui a été ce qu'on appelle aussi parfois, alors là c'est plus un peu plus technique, mais c'est ce qu'on appelle les théories de la démocratie délibérative en philosophie politique. Alors ça pour situer un peu les auteurs de référence, la démocratie délibérative, elle insiste sur quoi? Elle insiste sur le fait finalement que il faut essayer de comprendre la démocratie à partir d'un socle ou d'une espèce de consensus qui serait finalement nature morale en réalité. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas simplement la concurrence des partis, c'est pas simplement une espèce de compromis entre des intérêts avec des élections tous les 5 ans qui finalement attirent de moins en moins de monde. La démocratie, c'est autre chose, c'est une espèce d'adhésion des populations finalement sur des valeurs un peu fondamentales, qui sont des valeurs de consensus, qui sont des valeurs d'échange rationnel, de respect des arguments adverse, de symétrie, de réciprocité. Et donc finalement, c'est un petit peu la manière dont se conduit les procédures finalement qui conduisent le débat démocratique, qui permet de comprendre les espèces de valeurs de fond sur lesquelles reposent les démocraties. Alors, pour situer ça, ce mouvement-là, donc les auteurs, c'est des gens, notamment un philosophe américain très connu en philosophie politique, et John Rawls. Et puis en Europe, c'est plutôt un philosophe allemand qui s'appelle Habermas, qui sont tous les deux des intellectuels qu'on peut classer à gauche, hein, c'est-à-dire que c'est pas de francs réactionnaires, même c'est plutôt des philosophes de bonne tenue et de bonne foi, qui sont pas radicaux hein, dans leur revendication, mais qui en tout cas prennent cette question la démocratie au sérieux, en essayant de comprendre finalement voilà sur quel socle de valeur ça repose et pourquoi c'est important du coup effectivement de mettre en valeur ce socle-là, donc l'intérêt d'un débat qui soit mené rationnellement, de manière réciproque, symétrique, dans lesquelles effectivement les questions ne soient pas biaisées à l'avance.
Ouais. Par exemple, chez John Rawls, dans sa théorie de la justice, c'est le très fameux voile d'ignorance, très fameux dans la théorie politique, voile d'ignorance, qui stipule que globalement, si on doit délibérer sur les principes qui vont constituer notre société, il faut faire comme si on ignorait absolument toute notre position sociale dans la dite société.
C'est ça.
Afin de choisir la façon la plus optimale possible, d'un point de vue moral, les principes qui la constitueront. Voilà. Donc il va énoncer des principes de justice qui devraient être à la base de toute société occidentale, parce qu'il a un côté relativiste quand même, correct.
Ben concrètement, le voile d'ignorance, ce qui explique le nom, c'est quoi ? C'est si vous voulez effectivement définir les règles du jeu, c'est la distribution des biens, que ce soit effectivement les richesses, les responsabilités, les charges publiques, etc. Si vous voulez définir des règles du jeu démocratique et qui soient égalitaires et justes, puisque pour lui, effectivement, il n'y a pas la démocratie et le régime de la justice. Si vous voulez faire ça, il faut essayer de faire une espèce d'expérience de pensée dans laquelle, en fait, tous ceux qui vont être concernés par ces règles-là ignorent quelle sera leur position sociale future. C'est-à-dire, ils ne savent pas s'ils seront riches ou pauvres, s'ils seront blancs, noirs, hommes, femmes, homosexuels, hétérosexuels, etc. Donc, si vous ignorez quelle sera votre position dans la société future, c'est le bon dispositif pour essayer d'imaginer quelles sont les règles les plus justes pour organiser cette société-là. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le voile d'ignorance, parce qu'on fait, voilà, faisons comme si, dit John Rawls, si on veut essayer d'avoir des règles qui soient justes, eh bien, il faut imaginer un dispositif comme ça. On fait comme si, effectivement, tous les membres de cette société ignorait, était dans l'ignorance de leur position future. Et comme ça, effectivement, on peut arriver à produire des règles qui seront finalement, qui ne seront désavantageuses pour personne en particulier, puisque, effectivement, chacun ignorant quelle sera sa position concrète, effectivement, dans la société future, il n'a pas intérêt, effectivement, à ce que cette position soit désavantagée ou discriminée à l'avance. Et donc, effectivement, toute sa théorie de la justice, alors ça, c'est un livre qui est un des grands livres de philosophie politique
du 20e siècle, 71.
Et donc, effectivement, à partir de cette expérience-là, John Rawls essaye de clarifier voilà, quelles seraient les règles d'une société juste, donc démocratique, d'après lui. Et pourquoi la démocratie est un régime juste ? Parce que c'est le seul régime qui considère que les différents membres doivent être considérés à égalité, justement. Alors, à égalité, ça ne veut pas dire que, par exemple, tout le monde gagne la même chose, parce que, effectivement, si pour la question de la répartition des richesses, par exemple, Rawls explique très clairement que, dans une société donnée, et si on se place dans le cadre de cette expérience-là du voile d'ignorance, eh bien, en fait, on est amené à conclure qu'il peut y avoir des inégalités de revenus entre les individus, selon le métier qu'ils exercent, en fonction des responsabilités sociales, finalement, qui sont liées à ces métiers-là. Donc, par exemple, effectivement, si on veut avoir des gens qui sont prêts à trimer des années pour avoir une formation de chirurgien, c'est pas tellement leur formation qui sera rémunérée, mais c'est la responsabilité. Comme c'est un métier qui socialement est indispensable et que tout le monde, effectivement, quelle que soit sa position, est capable de se mettre d'accord là-dessus, eh bien, on peut effectivement justifier le fait qu'un chirurgien collégiens soient mieux payés que, je ne sais pas moi, un métier socialement moins décisif ou moins crucial. Qui, voilà,
et formellement, derrière, il y a un principe très connu qui a été beaucoup débattu en philosophie politique, qui était celui de une inégalité n'est justifiable que si elle profite à ceux qui n'en sont pas les bénéficiaires.
Exactement. Bon. Ce qui après, voilà, conceptuellement, après, pose des tas de questions, mais c'est pas absurde, en fait, comme mode de raisonnement. Bon, c'est un exemple, si vous voulez, de la manière dont Rawls a fonctionné, pour essayer toujours, alors c'est ça, et elle, c'est ça qu'elle va viser, en fait, pour essayer, finalement, d'arriver à une espèce de socle, si vous voulez, qui serait un socle de règles et de valeurs démocratiques indiscutables, et qui, en quelque sorte, valeurs et des règles qui, elles, seraient pas soumises au débat démocratique. Alors ça, c'est la version Rawls, donc est vraiment un auteur qu'elle va discuter beaucoup, on va y revenir après. Et dans le cas d'Habermas, alors Habermas c'est quelqu'un qui finalement arrive à peu près aux mêmes conclusions, mais en partant d'une autre voie. Lui, ce qui l'intéresse au fond, c'est d'essayer de voir quelles sont les conditions dans lesquelles on peut parler de décisions réellement démocratiques. Et alors en fait, il va insister lui beaucoup plus sur les règles du jeu. Les règles du jeu plus que sur les valeurs, hein, donc dans le cas de Rawls c'est plutôt voilà, les valeurs d'égalité et aussi d'équité qu'il essaie d'articuler, voilà ce genre de choses, de respect de l'argument, voilà, de droit individuel, bon. Dans le cas d'Habermas, il insiste beaucoup plus sur les règles du jeu qui permettent de définir ou de déterminer si une décision est prise de manière démocratique ou pas. Et donc lui insiste beaucoup, mais au fond, finalement, comme Rawls, hein, c'est là où il se retrouve, effectivement, il insiste beaucoup sur le fait qu'une discussion, pour qu'on puisse parler de décision démocratique, eh bien c'est une discussion qui doit être effectivement où chaque membre est à égalité, où il y a des règles de réciprocité, c'est-à-dire qu'un argument valable pour l'un doit être valable pour l'autre, il ne peut pas y avoir un argument valable uniquement en fonction d'un certain point de vue particulier, des règles de symétrie également, voilà. Et l'idée de Habermas, c'est qu'au fond, ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de déterminer finalement des critères qui permettent de reconnaître, voilà, la manière dont une décision est prise et de déterminer si elle est prise de manière démocratique ou pas. Et en fait, il arrive un peu aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que si effectivement on a un débat démocratique, voilà, qui obéit à ces règles-là, égalité, réciprocité, symétrie, eh bien, finalement, les conclusions auxquelles on arrivera, c'est que il y a tout un tas de questions liées, voilà, à notre position personnelle, à nos convictions morales, religieuses, à nos orientations sexuelles, etc., qui finalement se trouvent finalement sorties de ce débat démocratique. C'est pas des questions qui, on peut pas utiliser en quelque sorte ces particularités comme des arguments valables ou comme des justifications valables dans le débat démocratique. Donc il a, au fond, cette expérience de pensée là du voile d'ignorance, mais c'est quelque chose d'assez comparable. Alors, là où il se distingue, mais c'est un peu formel, c'est que finalement, le projet de Rawls, finalement, c'est de dire que une démocratie, c'est quoi? C'est en fait un régime qui respecte les valeurs libérales classiques. C'est-à-dire la liberté individuelle, l'égalité des droits, garantie par une autorité souveraine, hein, par un état de droit. Donc la démocratie repose sur les valeurs libérales. Et en fait, Habermas fait un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, les valeurs libérales, elles sont importantes parce que, d'une certaine manière, c'est elles qui permettent le débat démocratique, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, les deux sont inséparables. C'est-à-dire que pour qu'on ait une discussion et des échanges qui soient réellement démocratiques, eh bien, effectivement, ça aboutit à défendre l'idée d'égalité des droits, de liberté individuelle, etc. Et inversement, lorsque ces droits sont respectés, eh bien, ça encourage et ça valide un débat authentiquement démocratique. Mais finalement, en fait, ils convergent sur le résultat. En fait, hein. Ils essayent de viser une stratégie. Habermas est plus sensible à la définition de la démocratie. Rawls est plus sensible à la définition des valeurs libérales. Mais l'un comme l'autre sont d'accord pour dire que finalement, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, en réalité. Et alors, c'est ce qu'on appelle les conceptions de la démocratie délibérative. Alors là, on l'a présenté de manière un peu abstraite, hein, en essayant voilà d'être le plus clair possible. Mais c'est un cadre effectivement qui est très puissant intellectuellement et conceptuellement. Je dirais c'est très puissant parce que après, il peut y avoir plein d'interprétations possibles de ce cadre-là, si vous voulez. Il peut y avoir des interprétations éventuellement même très radicales. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie participative, hein, qui insiste sur voilà, la participation. participation citoyenne à tous les échelons, que ce soit municipal, quartier, éventuellement même dans le monde du travail, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, on peut effectivement pousser ça de ce côté-là. La démocratie participative, d'une certaine manière, elle peut découler d'une approche comme celle qu'on vient de présenter, et celle de Rawls ou celle de Habermas. Il s'agit effectivement de la démocratie participative, d'organiser le plus possible des discussions rationnelles, égalitaires, avec des règles de réciprocité, sans déterminer à l'avance l'ordre du jour, qui permettent de prendre des décisions de manière démocratique. Et c'est vrai à l'échelle des, voilà, des conseils de quartier, ça peut être aussi à l'intérieur d'un mouvement social, voilà, d'un mouvement de grévistes, ça peut être sur les lieux de travail, ça peut être à l'échelle d'un pays tout entier, pourquoi pas. Donc il y a des interprétations très radicales possibles de ce cadre-là. Même si Rawls lui-même et Habermas ne sont pas des militants particulièrement radicaux, il n'empêche que à partir de la manière dont ils définissent la démocratie, dont ils la conçoivent, on peut avoir des interprétations plus ou moins radicales de ça. Et en fait, ce que va faire Mouffe, bon, on va en parler après la pause. Ce que Mouffe conteste, c'est justement
Chantal Mouffe, dans son livre Le paradoxe démocratique, parce que ça fait plusieurs fois que, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Donc.
Ouais. Et alors, son argument sur le plan philosophique, là pour le coup, on n'est plus sur les questions de contexte politique. Elle, ça va consister à contester finalement cette approche-là et à dire qu'en fait, ça marche pas. C'est-à-dire que si on cherche à définir la démocratie avec un objectif de consensus comme ça sur des valeurs ou sur des manières d'argumenter ou des manières de présenter des revendications et d'arriver à un consensus impartial, en fait si on présente la démocratie comme ça, ça ne marche pas. Et en réalité, présenter la démocratie comme ça, ça exclut d'entrée de jeu tous ceux qui ont une autre interprétation de la démocratie, et donc finalement c'est une décision politique libérale qui considère que les gens qui ne sont pas libéraux sont en fait irrationnels ou déraisonnables. Voilà. Et donc, elle va essayer de proposer une autre conception de la démocratie, non consensuelle, pour sortir de ce cadre-là qui, d'après elle, est responsable de la dérive à droite des partis de la gauche gouvernementale. Voilà, si vous me suivez toujours. Donc, alors, c'est une affaire à plusieurs étages, cette affaire-là. Alors, d'ailleurs, c'est pas certain que tout fonctionne comme elle le présente, mais pour présenter un peu son argument, c'est comme ça que ça tourne. Voilà, on va faire peut-être une petite pause et puis on prendra ça après.
Just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. Change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay.
Right.
Vous écoutez Je suis noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans dieu, ni maître, ni publicité, mais avec les Sligors, dans un morceau que José qualifie de super sexy. Comme ça, il va se faire tuer par tout un tas de gens qu'il connaît. Je l'ai dénoncé à l'antenne. Comme ça. Jeudi noir ce soir, on vous parle d'un livre de Chantal Mouffe, une philosophe spécialisée dans les, comment dire, dans la réflexion sur la politique, théorie politique. Et c'est un livre qui s'intitule Le paradoxe démocratique, qui a été publié aux éditions des Beaux-Arts de Paris par le ministère de la Culture et de la Communication, ce qui n'est, à mon avis, pas du tout, sans signification. Voilà, et on vous exposait de façon peut-être un peu académique, on s'en excuse encore, les idées des adversaires de Chantal Mouffe dans la partie précédente de l'émission. Et là, Jean-Mathias va nous parler, je crois, davantage des critiques que peut faire Chantal Mouffe de ces théories qu'on vous présentait.
Alors, ouais, les critiques, donc en fait, sa cible, hein, je résume l'argumentaire. Les partis de la gauche de gouvernement ont pris un virage à droite, hein, en Angleterre, Blair, en Allemagne, Schröder, on est dans les années 90-2000, et en fait il y a une espèce de nouveau discours politique qui est en train de se mettre en place et qui règne en Europe. Alors au passage, il est en train de se casser la gueule là depuis quelques temps, mais de fait pendant 15 ans il a été assez hégémonique pour le coup, c'est-à-dire dominant. Et en fait, ce virage-là, d'après elle, il met en avant quoi ? Il met en avant une espèce de société apaisée, rationnelle, dans laquelle il n'y a plus de lutte de classe, dans laquelle il n'y a plus d'intérêt réellement contraire entre les salariés et puis la bourgeoisie, et dans lesquels en fait les gouvernements dits de centre-gauche, troisième voie, comme on l'a dit, qui dépasse cette espèce de vieille opposition archéologique entre gauche et droite, dans lesquels les gouvernements finalement sont soucieux des droits et des libertés individuelles, sont très investis sur les questions sociétales, et puis ils cherchent effectivement des accords win-win, hein, comme disait l'autre, c'est-à-dire effectivement des accords qui fassent consensus. Alors ça va effectivement avec une certaine idéologie du dialogue social, etc. Bon, ça renvoie à des choses qui font un peu sens, y compris chez nous, comme on dit. Alors ça, effectivement, c'est son constat de départ. Pour elle, évidemment, c'est une connerie, et puis c'est une déperdition du débat démocratique lui-même. Et ça son hypothèse, on va dire, c'est que en fait cette dérive là elle a été rendue possible par les théories démocratiques et libérales qui se développent chez des auteurs comme Rawls ou comme Habermas, du côté de la philosophie politique, qui insiste justement sur la nécessité de fonder la démocratie sur un consensus de valeurs, un consensus rationnel. Alors, ces auteurs-là, en fait, pour les situer avant de rentrer dans la partie critique proprement dite, un des intérêts du livre, c'est de rappeler un petit peu le contexte dans lequel ces théories démocratiques libérales, plutôt de gauche, se développent. Donc là, il faut bien voir qu'on est dans les années 70, et en fait, que ce soit Rawls ou Habermas, c'est des gens qui, en fait, sont très inquiets du tournant que prennent les démocraties de masse, en Occident notamment, avec une espèce de désaffection de plus en plus importante à l'égard des valeurs démocratiques, des valeurs de débat démocratique, des valeurs d'échange rationnel, de l'importance accordée aux faits, etc. Il y a une espèce de désaffection, effectivement, avec une montée de l'abstention, avec une montée, effectivement, des discours qui rejettent, y compris la démocratie en tant que telle, hein, des discours antidémocratiques. Et d'après eux, en fait, donc là je parle de Rawls et d'Habermas, d'après eux, ce rejet et cette désaffection, ce manque d'allégeance, comme on dit parfois aussi au système démocratique, il est lié à ce que la démocratie, finalement, a perdu toute visée de l'intérêt général ou du bien public. Et c'est devenu simplement un jeu de concurrence un peu formel, hein, entre des partis qui représentent des intérêts un peu irréductibles, et ce qu'on appelle des conceptions aussi parfois procédurales ou agrégatives de la démocratie. Alors ça, c'est des théories qui apparaissent dans les années 30, dans les années 40, notamment sous la plume d'un philosophe autrichien qui s'appelle Schumpeter, et qui a été en fait
économiste aussi, je me fais
philosophe et économiste, et qui a été en fait un des penseurs de la philosophie politique les plus influents au XXe siècle, hein. C'est-à-dire que toutes les sciences politiques en fait viennent de cette matrice-là en réalité. C'est-à-dire que si on veut parler de démocratie, les démocraties modernes, elles reposent plus sur des valeurs ou sur la recherche d'un bien commun, parce qu'en fait la société est trop compliquée, trop divergente, il y a trop de pluralisme en fait, hein, dans la manière, dans les formes de vie, dans les valeurs, dans les convictions. En fait, les sociétés modernes, les sociétés de masse sont beaucoup trop complexes pour qu'on puisse espérer, par la politique, arriver à la définition d'un intérêt général ou d'un bien commun. Donc il faut faire une croix là-dessus. C'est-à-dire que ça, c'était peut-être possible à Athènes sous l'Antiquité, ou encore dans des moments de crise, la Révolution française, etc. Mais dans des démocraties comme les nôtres, au fait, il faut faire une croix là-dessus. Et en fait, du coup, on a une espèce d'approche de la démocratie chez Schumpeter et dans les sciences politiques qui la réduit à une espèce de jeu, si vous voulez, un peu de concurrence entre des partis, qui, sans qu'on cherche plus à définir un bien commun ou des valeurs communes ou un consensus commun. Et c'est précisément en réaction contre ça, hein, que des gens comme Rawls ou Habermas se mettent à essayer de chercher ce qui serait un socle commun, une espèce de consensus, voilà, de valeurs et aussi de mode de vie, un peu de fond, si vous voulez, ou fondamental, qui mériterait d'être défendu en réalité, qui mériterait d'être défendu. Et ils essayent d'expliquer, voilà, en quoi peuvent consister ces valeurs démocratiques et pourquoi effectivement elles méritent d'être défendues. Donc bon, encore une fois, c'est, le point de départ est important à rappeler, parce que si vous voulez, après, les usages qui peuvent être fait de cette théorie-là, alors on peut ne pas être fan, voilà, d'une théorie consensuelle de la société, ou de se dire que la politique cherche des consensus, etc. Mais il faut avoir en tête, effectivement, le contexte dans lequel ces arguments se développent, hein. L'idée, c'est au départ, c'est de défendre, effectivement, la démocratie, pas forcément telle qu'elle existe, hein, justement, pas forcément telle qu'elle existe, donc corrompue des grands partis, voilà, financée par des intérêts privés, etc. Non, l'idée, c'est effectivement d'arriver à expliquer pourquoi la démocratie mérite d'être défendue, hein. Et donc, les arguments que proposent donc Rawls et Habermas, c'est ce qu'on présentait tout à l'heure, disons, la recherche d'une espèce de consensus, de valeurs, de procédures, de règles, de discours, de respect effectivement des discours d'autrui. Et le souci, c'est que d'après Mouffe, en fait, ce projet intellectuel-là a finalement aidé et renforcé, hein, les dérives à droite des partis de gauche classiques, donc issus du mouvement ouvrier, avec une conception marxiste, ou voilà, révolutionnaire, de lutte de classe, ou même réformiste. Et donc en fait, tout ce travail intellectuel aurait aidé en quelque sorte les partis de la gauche de gouvernement à abandonner en fait, hein, toute idée de référence à un mouvement ouvrier, à la lutte des classes, à des intérêts de classe, etc. Je suis pas sûr qu'elle ait raison. Ça, c'est, je le dis tout de suite, c'est-à-dire je suis pas du tout sûr en fait que des gens comme Blair ou Schröder effectivement aient réellement utilisé des théories comme celle de Rawls ou comme celle d'Habermas pour arriver à leur fin. C'est pas du tout sûr qu'il y ait un lien entre le succès de ces théories ou de cette philosophie politique dans le milieu universitaire, succès qui a été considérable, mais c'est pas du tout sûr qu'il y ait un lien entre ce succès-là et le phénomène politique de la troisième voie, Blair, Schröder.
Les philosophes ont souvent tendance à surestimer l'impact historique des théories de leurs prédécesseurs.
Il n'est pas certain, si tu veux,
que ce soit cet effet-là
qui a été produit. Moi, ça, c'est une question, hein, qu'on peut se poser. Bon, elle le pense. Et du coup, évidemment, elle pense que pour effectivement dézinguer le centre-droit socialiste, il faut dézinguer ces théories politiques du consensus démocratique, comme celles qu'on trouve chez Rawls ou Habermas. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, en fait, opposer à ça? Eh bien, d'abord, le reproche que je mentionnais tout à l'heure, c'est que si on dit que le but de la démocratie et le socle sur lequel ça repose, c'est finalement une discussion qui vise un consensus par un échange d'arguments, et qu'on écoute les arguments des uns des autres de manière égalitaire, en essayant de tenir à distance ce qui fait les intérêts particuliers ou les identités particulières. Si on fait ça, si c'est ça le but de la démocratie, si c'est ça le socle de valeurs sur lequel elle repose, alors en fait, on laisse de côté et on exclut tous ceux qui sont pas libéraux. En fait, son idée, ça c'est une idée qui peut se défendre, son idée c'est qu'en fait, il n'y a pas de lien évident entre le libéralisme et la démocratie.
Alors ici, il faut peut-être préciser ce qu'on appelle libéralisme, parce que c'est pas forcément évident. Alors, en France, on le confond toujours systématiquement avec le capitalisme.
Ouais. Alors le libéralisme tel qu'elle le définit, c'est ce qu'on appelle le libéralisme politique. Le libéralisme politique, c'est quoi? En gros, c'est le progressisme au XVIIIe siècle, c'est-à-dire cette idée qui met en avant le fait que l'État doit respecter les libertés individuelles et les droits de l'homme, pour faire vite. Hein. L'aboutissement du libéralisme politique, c'est quoi? C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire un ensemble de droits qui, faut le rappeler quand même, sont censés protéger les individus contre les États. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est ça le but. Hein. C'est-à-dire que elle s'adresse effectivement aux individus, n'importe où, n'importe quand, n'importe qui, pour leur donner effectivement une base de droits qu'ils sont en principe susceptibles d'opposer à des États qui ne les respectent pas. Donc ça c'est l'objectif, si vous voulez, essayer de réaliser toujours plus, hein, l'objectif du libéralisme politique c'est ça, réaliser toujours plus ces droits individuels et cette égalité des droits dans les faits, hein, donc effectivement contraindre le plus possible les États à respecter ces droits individuels, et derrière il y a l'idée finalement que la liberté de l'individu prime sur la raison d'État. Hein, donc c'est contrairement.
Et ce genre d'idée a pu être repris par des auteurs anarchistes, un auteur anarchiste comme Rudolf Rocker, qui disait que le souci du libéralisme politique, c'est qu'il s'était heurté finalement à son versant économique et que son projet initial avait complètement échoué à cause de la survalorisation de la propriété privée dans le projet politique libéral. Et justement, propriété privée qui était vue comme une espèce de droit inaliénable de l'individu.
Exactement.
Et à partir de là, la propriété privée a pris toute la place et finalement a écrasé les individus, mais un mec comme Rocker, qui est un syndicaliste, un narco-syndicaliste allemand, le résultat était contraire, finalement, et contradictoire avec le projet initial du libéralisme politique.
Bah, en ce sens-là, en fait, tout le mouvement anarchiste, il est héritier du libéralisme politique.
C'est ce que dit Rocker, en tout cas.
C'est pas le seul. Hein.
Oui, c'est pas le seul. Oui, c'est Chomsky aussi. Voilà. Alors, Rocker, mais bon.
Alors, évidemment, la difficulté, c'est ce que tu disais, c'est qu'évidemment, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, t'as aussi, évidemment, parmi ces droits que l'État, sur lesquels l'État doit pas intervenir, c'est le droit à la propriété privée. Alors, encore une fois, il y a un contexte. Hein, c'est-à-dire qu'au XVIIIe, ça veut dire que le roi ne peut pas se servir dans la poche des citoyens. Hein, ce qui n'est pas un détail. Bon, alors évidemment, après, avec l'essor du capitalisme industriel et financier, ça change un peu le contexte. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'État n'a plus le droit de se servir dans la poche de la haute finance ou de Bettencourt, voilà, on en arrive où on en est. Mais il faut toujours, en France, il y a souvent, effectivement, on passe vite là-dessus. Hein, c'est-à-dire que c'est pas rien. Le libéralisme politique, c'est quand même un sacré socle aussi de droit et un sacré socle de progrès. Et voilà, d'une certaine
même
manière.
Même si, en réalité, il est vrai aussi qu'il a surtout été au service de la minorité blanche possédante, globalement. Mais bon.
Oui, enfin, ça, on pourra en discuter.
On pourra en discuter aussi. Très fréquemment, il a été nié quand ça convenait.
En pratique, ça c'est clair. Non, bien sûr, c'est des droits qui ont un caractère formel. Bon, mais après, voilà.
Après, moi, j'y suis attaché.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est aussi une des bases d'argumentation pour l'abolition de l'esclavage, de la part des esclaves, eux-mêmes. Donc cette question-là, mais alors quand on parle de libéralisme politique, c'est ça, hein, effectivement, qui est en jeu. Et en fait, bon, alors elle, évidemment, en bonne marxiste, alors elle conteste ça, et elle pense qu'effectivement... Alors, d'abord, je termine sur son argument, parce que ça, c'est une idée qui est intéressante, pour le coup, je trouve. Elle pense que ce projet-là, ce projet libéral, c'est un projet qui est distinct du projet démocratique, proprement dit. Le projet démocratique, pour elle, c'est ce qui émerge avec la Révolution française. Alors, la Révolution française mixte les deux tout de suite, hein, libéralisme et démocratie, mais ce qui caractérise le projet démocratique, selon elle, c'est l'idée de souveraineté du peuple et d'égalité. Et elle dit qu'en fait, le lien entre les deux ne va évidemment pas de soi. Et que ce qu'elle reproche finalement à Rawls ou à Habermas, c'est de faire comme si finalement il n'y avait pas de problème. Comme si une démocratie était forcément libérale et comme si le libéralisme était forcément démocratique. Et ça, effectivement, là-dessus, je pense qu'elle a pas tort. Alors, c'est un peu macro comme manière de raisonner, mais elle a pas forcément tort. C'est-à-dire l'idée d'assimiler les deux comme si, évidemment, on pouvait pas les séparer, c'est en tout cas, ça pose des questions. Parce que d'après elle, en fait, c'est deux traditions différentes, historiquement. C'est pas les mêmes qui défendent effectivement le projet libéral, politique, au sens politique du terme, et ceux qui vont défendre la démocratie. Alors après, il y a des alliances qui se sont faites. Mais au fond, elle dit que là, il y a quelque chose il y a un paradoxe, c'est d'où le titre, effectivement, qu'il faut assumer. C'est pas du tout clair que les deux aillent main dans la main. Et en fait, il y a beaucoup plus de tensions que de convergence. Comme c'est présenté. Alors il y a plein d'exemples de ça, bien évidemment. C'est-à-dire que, par exemple, au nom des droits de l'homme, vous pouvez contester les frontières nationales. Hein, évidemment. Dans les droits de l'homme, vous avez, par exemple, un principe de liberté de circulation, qui est évidemment appliqué par aucun État au monde, même quand c'est des États démocratiques. Hein. Mais finalement, c'est une liberté, et c'est un droit individuel fondamental, voilà, déclaré dans la déclaration, y compris celle de 48, la liberté de circulation. N'importe quel individu a le droit de circuler librement où il le souhaite. Ben, si vous appliquez ça concrètement, ça revient à lever toutes les frontières pour les personnes.
Attention, il a le droit de circuler, il n'a pas le droit de stationner.
Voilà. Bon. Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'évidemment, les droits de l'homme sont souvent opposés, alors, et pas seulement sur les questions de propriété privée, sur les questions de propriété privée aussi, mais pas seulement là-dessus. Les droits de l'homme peuvent être opposés à des décisions qui sont prises par des démocraties nationales ou des États démocratiques. Hein, et très souvent, c'est effectivement les droits de l'homme servent à élargir les droits existants au sein d'une communauté démocratique, donc remettre en question ces droits-là pour essayer de les élargir. Voilà. Donc ça, voilà, le libéralisme peut s'opposer à la démocratie, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Et inversement, évidemment, les démocraties peuvent s'opposer aux droits de l'homme. Si vous avez une décision démocratique et qui décide de durcir le contrôle aux frontières, elle peut parfaitement être démocratique, prise à la majorité, voire même à l'unanimité, et elle s'oppose, évidemment, aux droits de l'homme et aux droits individuels fondamentaux. Donc, en fait, l'articulation des deux ne va pas forcément de soi, loin de là. Ça, je pense que c'est une idée sur laquelle, effectivement, elle met le doigt sur quelque chose d'intéressant. Mais, alors, du coup, évidemment, derrière, le reste suit. C'est-à-dire que, du coup, ceux qui cherchent à faire reposer la démocratie sur des valeurs libérales, font comme si les deux allaient de soi. Et ceux qui, à l'inverse, disent que, effectivement, la souveraineté populaire, c'est elle, la souveraineté démocratique, c'est elle, finalement, qui fonde les droits individuels, ça c'est plutôt la version Habermas, en réalité, ils font la même erreur. C'est-à-dire qu'ils font comme si les deux étaient inséparables et devaient aller forcément ensemble. Contre ça, elle propose une autre interprétation de la démocratie en disant qu'en fait, il faut laisser tomber la recherche de consensus ou l'idée qu'on pourrait effectivement se mettre d'accord sur un socle de valeurs communes. En fait, il n'y en a pas. En démocratie, d'après elle, il n'y a pas de valeurs communes. En tout cas, s'il y a des valeurs communes, on ne peut pas espérer que tout le monde se mette d'accord par des échanges rationnels ou des échanges d'arguments sur ces valeurs communes. Il y a forcément, en fait, des interprétations divergentes de ces valeurs communes-là. Donc l'idée d'un consensus rationnel, un peu sur le mode voile d'ignorance à la Rawls dont on parlait tout à l'heure, ou un peu sur la manière de définir des règles du jeu ou des règles du débat qui seraient complètement transparentes et qui seraient complètement explicites. C'est ce qu'essaye de faire Habermas. Hein. Égalité des participants, réciprocité dans les arguments, symétrie, pas d'ordre du jour fixé à l'avance, pas de règles, y compris sur de fonctionnement qui soit lié à des intérêts particuliers ou à des identités particulières. Même quand on fait ça, c'est déjà trop pour elle. C'est déjà trop parce qu'en fait, on met des contraintes sur le débat démocratique et en fait, on fixe les choses, on fixe l'état de la société tel qu'il est à un moment donné. Hein. Et en fait, du coup, on empêche des revendications qui sont démocratiques, d'émerger pour plus tard. Alors c'est là qu'elle utilise ce concept d'hégémonie, là, qui vient de Gramsci, donc plutôt de la tradition marxiste, en disant finalement que lorsqu'on est comme ça dans une recherche de consensus rationnel, où on cherche à effectivement définir la démocratie par la recherche d'un consensus rationnel, le résultat c'est quoi ? C'est qu'on a une espèce de vision de la société qui finalement fige les choses, et les fige en général au profit des dominants du moment. Ce qu'on appelle une hégémonie, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous faites comme si, finalement, tous les gens, tous les participants actuels du débat démocratique, finalement, étaient à égalité ou étaient capables d'argumenter à égalité, eh bien, vous faites comme si, effectivement, il n'y avait pas de problème, y compris dans la formulation des revendications, dans la formulation des identités qui réclament une reconnaissance ou des droits réels, ce genre de choses. Bah, très concrètement, par exemple, alors, ça, c'est les points forts, c'est des questions classiques, hein, si vous voulez, mais si vous prenez l'histoire du mouvement féministe, par exemple, évidemment, les revendications féministes, dans un premier temps, tout simplement, dans un débat comme ça, consensuel et rationnel, elles ont été, pendant des années, tout simplement, inaudibles et informulables. tout simplement parce que les femmes en général n'étaient pas reconnues ou identifiées comme effectivement un sujet politique à part entière. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas identifié comme un sujet politique à part entière, comme si c'est une question d'intérêt particulier ou d'identité particulière, donc ça n'a rien à faire dans le débat démocratique. Et à partir du moment où effectivement les femmes ne sont pas identifiées comme telles, bon, ben, elles n'ont tout simplement pas voix au chapitre. Donc les revendications que vous pouvez formuler de ce côté-là sont tout simplement inaudibles et informulables dans un débat intégralement rationnel. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'entend. Même chose évidemment sur les revendications antiracistes par exemple, hein, voilà, s'il n'y a pas de race, on voit pas pourquoi il y aurait des militants antiracistes d'une certaine manière. Donc là, pour le coup, en France, on est bien placé pour sur cette question-là, puisque la France est un pays où évidemment qui a décidé, qui a décrété que les races n'existaient pas. Donc évidemment, il peut pas y avoir de problème de racisme derrière. En tout cas, c'est très difficile à identifier ou à formuler, puisque ça n'existe pas. On vous l'a dit, on vous l'a répété. Bon, donc c'est ce genre évidemment.
Alors après, le fait que des candidats racistes parviennent au premier rang des suffrages, bon, ça c'est une autre question. Hein.
Ouais, mais c'est sans doute. Ouais, c'est une autre question, ouais. Donc, si vous voulez, là-dessus, bon, c'est un argument qu'on peut entendre aussi de sa part, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, à trop viser voilà, un consensus dans lequel voilà, il y aurait des interlocuteurs avec des règles communes et avec un respect mutuel, si effectivement ça reste un objectif, il y a ce risque-là, évidemment, hein, ce risque tout simplement d'exclure ceux qui ne sont pas d'accord avec le consensus du moment, avec le consensus de valeurs, avec l'ordre social du moment, de se retrouver tout simplement exclus de la discussion parce que du coup, ce n'est pas des individus raisonnables, ce n'est pas des individus qui partagent des valeurs démocratiques. Hein, tout simplement parce que leurs revendications ne sont pas formulables, ne sont pas identifiables en tant que revendications politiques à ce moment-là. Alors, est-ce qu'elles pensent, c'est qu'en fait, il faut accepter qu'en démocratie, ben, il y a des antagonismes d'intérêts irréductibles, il y a des amis, il y a des ennemis. Alors là-dessus, évidemment, c'est une référence qu'elle va emprunter chez un philosophe nazi qu'on a déjà évoqué ici, qui s'appelle Carl Schmitt. Alors elle n'est évidemment pas d'accord avec les conclusions de Carl Schmitt, mais elle dit, attention, Carl Schmitt pointe des choses importantes. En fait, une communauté démocratique, il y a un groupe, une communauté démocratique ou un mouvement démocratique, il définit toujours des ennemis.
Des ennemis. Le problème, c'est que ça, c'est souvent un ennemi qui doit être à la fois intérieur et extérieur. Mmh. Chez Carl Schmitt, ça se termine très très vite.
Alors, bien sûr. Alors,
dans l'idée de guerre. C'est-à-dire, ce qui va unifier la communauté, c'est la guerre.
Alors, évidemment, là-dessus.
Et la chasse à l'ennemi intérieur.
Bien entendu. Alors, évidemment, là-dessus, elle se sépare, évidemment, elle veut pas arriver aux conclusions de Carl Schmitt. Alors, est-ce qu'elle arrive complètement à s'en dépatouiller? Ça, c'est une autre question. Mais là où elle se sépare de lui, évidemment, consiste à dire que justement, le vrai problème en démocratie, c'est d'essayer de faire en sorte que cet antagonisme politique, là, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des camps opposés et qui, d'une certaine manière, se définissent les uns contre les autres, hein, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, d'après elle. C'est pas le fait de chercher un consensus, finalement, exclut du débat des gens qui en fait... ont vocation à y être. Alors, pas simplement les ennemis de la démocratie, parce que ça, à la limite, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas tellement de discussion, d'après elle, mais c'est des gens qui pourraient éventuellement avoir une autre interprétation de ce que c'est que l'égalité démocratique, une interprétation qui n'est pas encore formulable, ou qui n'est pas encore dissible, ou identifiable, par des mots, par des revendications claires, etc. Ben, ceux-là se trouvent exclus du débat, alors qu'en fait, ils ont vocation à y être, et qu'ils ne sont pas moins démocrates que les libéraux du moment, qu'ils soient dominants ou pas, d'ailleurs. Hein. Donc, il faut admettre ça, c'est qu'en démocratie, la démocratie, c'est l'antagonisme. C'est l'antagonisme, c'est donc des oppositions entre amis et ennemis, et le vrai problème, c'est de faire en sorte que ces oppositions ne dégénèrent pas en guerre civile, hein, ne dégénèrent pas en guerre civile, et qu'il y ait, effectivement, quand même, le souci d'un respect, effectivement, de l'ennemi. Donc elle va chercher des formules un petit peu limites. Là-dessus, c'est là où je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement convaincante, mais elle dit finalement en démocratie, il faut chercher des adversaires, c'est-à-dire c'est des ennemis, mais c'est des ennemis qui sont légitimes. Des ennemis légitimes, c'est-à-dire que des ennemis légitimes, ça veut dire qu'effectivement on n'est pas d'accord. C'est pas la peine d'espérer se mettre d'accord sur une plateforme ou sur des arguments rationnels particuliers. En revanche, l'ennemi légitime, il a le droit d'exprimer son interprétation de ce que c'est que l'égalité en démocratie ou de ce que c'est que la justice en démocratie. Hein. Alors après, on compte. Hein, évidemment, on compte les voix. Donc, elle a ça, et c'est ce qu'elle appelle une conception agonistique de la démocratie.
Mais comment est-ce qu'elle peut fonder sa distinction entre ennemi légitime et ennemi illégitime sans retomber dans des trucs à la Habermas ou à la Rawls, du genre on est d'accord pour discuter ensemble sans se taper sur la gueule pour gagner.
Ben, je ne suis pas sûr qu'elle y arrive.
D'accord.
Je ne suis pas sûr qu'elle y arrive.
Ça me semble problématique déjà.
Ah oui, c'est problématique. Alors du coup, c'est problématique. Si le problème, c'est que du coup, si comme elle veut pas retomber là-dedans, du coup, elle a tendance à forcer le trait. À forcer le trait et à dire, au fond, que des décisions démocratiques, finalement, en réalité, de toute façon, ça reflète toujours des rapports de force. Il n'y a jamais une décision qui soit, finalement, définitivement plus légitime qu'une autre.
C'est possiblement vrai, mais...
Avec l'idée de consensus rationnel ou argumenté, évidemment, tu balances aussi l'idée que tu aurais une volonté générale à la Rousseau, ou même tout simplement un intérêt général une décision qui serait impartiale, si tu veux. Donc ça, elle va jusque-là. C'est-à-dire qu'effectivement, comme elle veut creuser le trait,
Il y a deux trucs qui me gênent là-dedans, c'est que d'une part, avec tous les discours, de toute façon, mais ça, c'est tout ce qui vient de Schmitt, globalement, j'ai l'impression qu'en réalité, en termes de théorie politique, on n'a absolument pas dépassé la fable du loup de l'agneau de La Fontaine. En gros, c'est le dernier qui parle qui a raison et basta. Ça, c'est un premier point qui quand même me semble extrêmement gênant. Et un deuxième point qui semble extrêmement gênant, c'est que dans les discours politiques, finalement, la plupart des politiques, y compris les plus injustes, les plus particularistes, les plus immondes qu'on peut imaginer, se réclament quasiment tout le temps d'un consensus universel. C'est-à-dire que les gens sont appelés par ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les universitaires font comme si tout le monde avait, avec eux, dépassé la fiction de l'universel et du consensus. Sauf que, non. Quel homme politique va dire, on n'est pas tous ensemble?
Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, parce que si tu veux...
Malgré tout, l'intérêt général apparaît toujours dans le discours politique.
Oui, mais après, tu peux dire que l'intérêt général, c'est l'intérêt des vrais Français.
Ouais.
Et là, tu ne cherches pas un consensus universel, tu dis c'est les vrais Français.
Tu cherches le consensus de la majorité, et il y a plein de gens qui vont marcher là-dedans.
Oui, mais c'est pas universel.
Bien sûr, c'est pas universel. Mais ça, c'était...
C'est
moins qu'on puisse dire, sauf que les gens vont dire... Il y a plein de gens qui vont se croire... C'est-à-dire que je veux pas dire que l'universel dont il se réclame n'est pas une fiction, parce que c'en est une. Simplement, c'est une fiction très puissante.
Oui, c'est une fiction puissante. Et puis, c'est surtout la question, c'est qu'est-ce que t'as de mieux? Parce qu'effectivement, même si c'est pas universel, si tu dis voilà qu'effectivement la démocratie en France, c'est de prendre soin des vrais Français, blonds aux yeux bleus et aux racines chrétiennes. Voilà. Tu dis ça, effectivement, tu définis une communauté qui est pas fondamentalement antidémocratique. Je veux dire, éventuellement, les décisions peuvent être prises à la majorité, etc.
Ils peuvent être démocratiques entre eux.
Voilà, mais c'est une communauté démocratique qui effectivement se définit avec un ennemi et avec un ennemi qui lui pour le coup n'a rien de légitime. Effectivement, c'est un ennemi à refouler. À renvoyer dans son pays ou à rejeter à la mer. Moi, c'est surtout ça qui me pose problème dans son approche, si tu veux. C'est l'idée, c'est comment tu dépasses ça, en fait, si tu veux. C'est-à-dire, effectivement, si t'as aucune décision qui soit réellement légitime, si c'est simplement, effectivement, comme tu dis, le loup et l'agneau, et c'est simplement un rapport de force favorable à tel ou tel point de vue à un moment, si effectivement, c'est même pas la peine de chercher à avoir des décisions qui soient légitimes et impartiales, qui vaudraient effectivement pour n'importe qui, puis c'est même pas la peine de chercher ça, et si c'est pas ça qu'on cherche en démocratie, alors effectivement, il s'agit simplement de s'organiser pour être dominant à un moment donné. Bon, je suis pas du tout sûr d'ailleurs au passage que ça serve réellement les gens qu'elle a envie de servir. Hein. Alors là où elle a raison, et c'est peut-être un point pour terminer là-dessus, c'est peut-être pas un hasard en fait que ce soit du côté de l'Espagne là aujourd'hui qu'elle soit sollicitée, parce que c'est un point fort, c'est un intérêt je trouve de son approche, c'est que du coup ça l'amène à réfléchir à des mouvements sociaux ou démocratiques qui seraient ouverts en quelque sorte, qui seraient ouverts sur lesquels effectivement t'aurais pas en quelque sorte de plateforme trop exclusive pour participer ou pour prendre part au débat. Au passage, chez Habermas, t'as pas ça non plus, en fait, il me semble pas. Là, sa critique est un peu injuste, mais en l'occurrence, là, il y a un bouquin qui vient de sortir, notamment chez Lux, là, qui s'appelle Squatter le pouvoir, là, sur les communes espagnoles qui sont gérées par Podemos. Et c'est intéressant cette approche-là, parce que c'est pas l'approche nationale des grands leaders, etc. C'est comment ça se passe, évidemment, au niveau des municipalités. Et t'as quelque chose de ce genre-là, c'est-à-dire, effectivement, des gens qui prennent part aux décisions publiques, qui prennent part, y compris aux politiques municipales, à Barcelone, à Madrid, ou même dans des toutes petites communes, beaucoup plus rurales, qui prennent part à la politique et aux décisions publiques de manière démocratique et qui n'ont jamais foutu les pieds dans un parti ou qui n'ont jamais foutu les pieds dans une organisation politique auparavant. Alors là, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire effectivement l'idée que la démocratie effectivement ne fixe pas à l'avance, si tu veux,
le droit de cité, oui.
Voilà, un droit de cité ou ce qui serait des valeurs sur lesquelles il faut, auxquelles il faut faire allégeance, ou tu vois, des valeurs consensuelles auxquelles il faudrait adhérer pour pouvoir effectivement avoir le droit. Alors effectivement, tactiquement, c'est pas rien, parce que du coup, effectivement, ça t'ouvre un peu les portes et ça te permet effectivement de chercher des revendications ou de formuler voilà des revendications qui sont pas forcément audibles ou entendues si t'as cette espèce de consensus rationnel qui devient vite dominant. Ça veut pas dire que c'est pas le consensus rationnel en tant que tel, je pense, mais effectivement, ça peut avoir une force. En tout cas, ça peut planquer des situations de domination. Donc ça, effectivement, c'est un intérêt. Après, je pense que sur le fond, moi, je suis pas complètement convaincu par son approche, parce qu'effectivement, si on abandonne complètement la recherche d'une décision impartiale ou d'une, si c'est plus ça l'objectif, et si c'est plus ça l'objectif est là, et finalement ce qu'on cherche en démocratie, bon, bah effectivement, c'est la guerre des gangs, quoi. Ouais. C'est la guerre des gangs. Alors ça peut être des gangs légitimes, effectivement, pendant un certain temps on évite de se tirer dessus, mais je vois pas pourquoi, je vois pas quelle garantie on a qu'à un moment ça dégénère pas. Alors elle, effectivement, c'est les deux garanties qu'elle-même, c'est des garanties qui sont assez fragiles, je trouve. C'est qu'effectivement, ce qui va avec cette idée de la démocratie, les deux points, et puis on termine là-dessus, c'est l'idée qu'effectivement chaque parti doit apprendre à auto-limiter ses revendications, c'est-à-dire à ne pas revendiquer l'ensemble de la gestion de manière définitive. Donc il faut renoncer à l'idée qu'il y aurait la légitimité à elle seule. Et l'autre garde-fou, mais pareil, un peu fragile aussi, c'est que quand on pense à la démocratie comme ça, d'après elle, ça veut dire qu'on commence à comprendre qu'on est responsable de ce qu'on propose dans le débat public. Voilà, donc auto-limitation, responsabilité. Je suis pas sûr effectivement qu'on ait beaucoup avancé par rapport effectivement aux théories qu'elle critique par ailleurs. Donc voilà, en résumé, voilà, intéressant sur le plan d'histoire politique contemporaine. Sur le plan philosophique, bon voilà, ça fait des rappels utiles sur les propositions qui sont celles de Chantal Mouffe là dans ce livre, Le paradoxe démocratique. Peut-être un peu plus mesuré. Voilà.
Vous pouvez retrouver cette émission et les références sur le site de Gurdulu. Donc vous tapez Jeudi Noir, Gurdulu, et vous atterrissez directement sur cette émission et toutes les autres qu'on a mises en ligne, voilà, que José a mises en ligne. Au revoir, à la prochaine.